Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce jeudi 15 juin 2023, nous sommes le troisième jeudi du mois et c'est donc le rendez-vous mensuel avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. On vous le rappelle, c'est le troisième jeudi de chaque mois, 12h, rediffusion à 19h et le lendemain en matinale dès 8h. Et autant vous dire que eh bien, nous sommes le 15 juin, troisième jeudi de ce mois, c'est la dernière émission de cette saison 2022-2023. Avant de nous retrouver après coupure estivale à partir de septembre-octobre sans nul doute sur la même fréquence. Autant vous rappeler aussi le temps de patienter justement jusqu'à la reprise rentrée prochaine que vous pouvez retrouver l'ensemble des programmes réalisés ces saisons dernières sur le site dédié www.gremos.fr, G-R-E-2-M-O-S, gremos.fr, où vous retrouvez un certain nombre d'informations d'actualités concernant le GREMOS, des articles, des publications, des sources, des ressources et puis donc ces émissions mises en ligne. On vous recommande donc d'aller consulter ce site internet dédié et puis vous annoncer, allez, d'emblée, on va démarrer de suite cette nouvelle et dernière émission de cette saison en présence de deux membres éminents du GREMOS. C'est le grand retour sur les ondes de Maurice Bédouin qui est avec nous. Maurice, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Avec plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette émission spéciale et à tes côtés puisque tu vas animer cette rencontre et entretien auprès de Jean-Paul Gachignard. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Membre du GREMOS également pour cette émission spéciale consacrée aux images d'extrême droite des mineurs de la Loire. Voilà, ça c'est l'intitulé et la thématique de cette émission du jour. Messieurs, je vous laisse les micros et donc la parole.
Merci Lionel. Jean-Paul, tu es déjà venu nous parler à Radio Dio, mais je vais quand même rappeler que tu étais conservateur honoraire des bibliothèques et que tu es l'auteur de deux ouvrages importants. Un premier volumineux, Pauvre mineur, mineur joyeux, chansons et poèmes sur les mines et les mineurs de la Loire, 1815-1914, et puis beaucoup plus petit, un ouvrage Cata, catastrophe minière, qui sont tous les deux des ouvrages qui ont accompagné deux expositions récentes du Puy Couriot. Alors, Jean-Paul, dans Pauvre mineur, mineur joyeux, tu montres que la figure du mineur véhicule des représentations très prégnantes et elles ont été popularisées de façon multiple, notamment par des poèmes et des chansons, mais pas seulement, et nous allons nous intéresser de ce qu'il en était au début du XXe siècle. Tu as rassemblé un corpus très complet, mettant en valeur des répertoires d'images, des habitudes de pensée sur la vie et le travail du mineur. Et tu as le sentiment que ces images sont imprégnées par les courants traditionnalistes de pensée et même, penses-tu, d'extrême droite.
Alors, certaines de ces images, il y a beaucoup d'images littéraires qu'en fait tout le monde utilise, quelles que soient les tendances politiques ou les représentations sociales des auteurs. Donc toutes les images littéraires ne sont pas marquées d'un côté ou d'un autre, c'est variable. Mais par contre, oui, dans les quelques 200 chansons et poèmes que j'ai étudiés, dont une centaine sont publiées dans Le Pauvre Mineur, il y a bien ce que j'appelle des systèmes d'images, des systèmes de représentation d'extrême droite, et il y en a aussi traditionnalistes. Je ne confonds pas les deux.
Alors, parmi les auteurs que tu as étudiés et qui sont parmi les plus remarqués du XXe siècle, du début, qui ont écrit sur les mineurs, tu as retenu le personnage de Jean Tenant, qui est un personnage pour lequel on a une vraie sympathie parce qu'il est jeune. Il a 18 ans et il se retrouve probablement avec de vieilles personnes au caveau stéphanois et il est aussi écrivain dans la revue forésienne. Alors, précise-nous, qui était Jean Tenant et avait-il des idées marquées?
Oui, alors, Jean Tenant, donc, ses deux grands-pères étaient mineurs et deux de ses oncles l'étaient aussi. Donc, c'est vraiment très. Par contre, son père était employé. Mais il connaissait bien le milieu minier de Rive-de-Gier. Et c'était aussi un militant d'Action française, un disciple de Charles Maurras dès cette époque-là. C'est-à-dire, on est pratiquement à la fondation de la Ligue d'Action française, mais il faut savoir qu'il y a eu quelques épisodes avant. Et il a été d'idées d'extrême droite, on ne peut pas appeler ça autrement, très marqué pendant toute sa vie. Enfin, je n'ai pas de détails sur ses opinions à la fin de sa vie, mais par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été un pétainiste très virulent.
Et tu me disais tout à l'heure qu'il était un ami de Monterland.
Alors, ça, je n'ai pas d'éléments là-dessus. C'est dans une publication que j'ai lue. Donc là, je suis moins formel. Par contre, c'était surtout, il se vivait comme tel. D'ailleurs, un disciple politique, mais aussi littéraire de Charles Maurras. Oui. Parce que ce qu'on ne sait pas, puisque aujourd'hui, à part les gens d'extrême droite, peu de gens connaissent la figure de Charles Maurras. C'est que Maurras, ça a été le grand théoricien de l'Action française, donc antisémite, xénophobe, enfin toutes les horreurs possibles et imaginables, mais, ou presque, celui qui a trouvé que la défaite française en 1940, c'était une divine surprise, mais c'était aussi un chef d'école littéraire, c'était le grand chef de ce qui s'appelait l'école romane vers 1900-1905. Il faisait partie du Félibrige et il défendait l'alexandrin contre les nouveautés en poésie. Et donc, Tenant était, mais dès ses débuts au caveau stéphanois, un disciple ardent de Charles Maurras, c'est ce que disent les témoins à l'époque. Et par ailleurs, Tenant est un personnage tout à fait intéressant. D'abord, c'est quelqu'un qui a un véritable talent littéraire. Ensuite, c'est quelqu'un qui a un talent de critique littéraire. Et c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup participé à l'animation de la vie culturelle stéphanoise, aussi bien dans les années 20 et 30 que jusqu'à sa mort. Et il est mort à plus de 100 ans, donc en 1986.
Alors le mieux, c'est de faire connaissance avec lui en l'entendant. C'est un poème qu'il a écrit en 1903 qui s'intitule « Le mineur ». À cette époque-là, Jean Tenant avait 18 ans. Et la chanson, le poème a été mis en chanson par Roland Roche et c'est cette version-là que nous allons entendre.
Quelle est donc cette lampe qui fume ? Qui donc déjà parmi la brume marche au labeur? À cette heure où chacun sommeille, qui donc ainsi va, qui donc veille? C'est un mineur. Hélas, une voix souterraine pour tout homme arrivé la chaîne de la douleur. Mais il est un être qui souffre, loin du soleil au fond du gouffre, c'est le mineur. Mais dans la sombre galerie, où son brameux avec furie, le pic vainqueur, il songe et son rêve l'emporte. Qu'un baiser l'attend sur la porte, le noir mineur. Du soleil, l'égal est le frère, mineur tu donnes la lumière et la chaleur. La science a droit à la gloire, mais à qui doit-on sa victoire? À toi mineur. Humble chanson, tu peux sans doute ne pas retentir sur ma route, mais toi mon cœur, sois heureux, il doit te suffire d'avoir fait résonner ma lyre pour les mineurs. Sois heureux, il doit te suffire d'avoir fait résonner ma lyre pour les mineurs.
Sur le plan musical, ça tombe bien tout ça là. Alors, Jean-Paul, dans ce poème, en l'analysant avec soin, tu pointes des éléments qui révèlent une prise de position sociale de Jean Tenant. Alors, est-ce que tu peux nous les préciser ?
Alors, une prise de position idéologique, je dirais, que sociale, idéologique et un peu politique. On a deux questions qui est à la fin du 19e, qui sont importantes dans les représentations des mineurs. On a la question de la souffrance et la question du sens du travail, parmi d'autres, hein, mais ces deux-là sont particulièrement importantes. Et elles renvoient à deux séries de questions. D'une part, la question de la souffrance, hein, c'est là, une loi souveraine pour tout homme arriver à la chaîne de la douleur. On parle bien de la souffrance. Donc il dit, voilà, il y aura toujours de la souffrance et tout le monde a de la souffrance. Alors là, c'est une problématique, une thématique qu'on trouve souvent au XIXe siècle, en particulier dans les poèmes catholiques du XIXe siècle. Il y a par exemple dans le... Moi, je ne confonds pas hein, du tout, parce qu'il faut bien séparer les choses. Mais par exemple, il y a les poèmes de l'abbé Boudarel, qui lui aussi d'ailleurs était de famille minière, qui lui était de la vallée de Londen, qui a écrit tout un recueil qui s'appelle « Sanctuaire et pays noir », où il parle entre autres des milieux miniers. Et par exemple, pour l'abbé Boudarel, la clapeuse, c'est un exemple d'humilité. Voilà. Elle subit son sort sans se plaindre. C'est un exemple d'humilité. Pourquoi ? Parce qu'il faut accepter la souffrance. C'est ce que dit à l'époque l'Église catholique. Elle a beaucoup changé depuis. On pourra revenir là-dessus. Et puis la question du sens du travail. Donc pour la plupart des gens, je dirais, le sens du travail, il faut gagner son pain, il faut faire vivre sa famille. Voilà, le travail, il sert à gagner de l'argent, disons. Bon, dans les représentations catholiques, de l'époque, du 19e, à cette époque-là, bien avant Vatican II, le travail, c'est une épreuve parmi d'autres. Donc, il faut supporter sans se plaindre, courageusement, etc. Et puis, dans les représentations nationalistes de la fin du 19e siècle et du début du 20e, le travail, c'est le travail pour la patrie. Donc, le mineur, non seulement il trime, mais en plus, il se sacrifie, et en plus, il le fait joyeusement. Voilà, parce que ça va être utile à d'autres. Et là, on le trouve dans ce texte-là. Alors, devant sa tombe ouverte, il chante sans terreur et sans épouvante. La science a droit à la gloire, mais à qui doit-on sa victoire ? À toi, mineur. Alors, il n'y a pas tout dans l'enregistrement, Roland Roche a fait sauter certains couplets. Donc, je me base sur le texte de départ. C'est assez discret, mais ça renvoie à ces problématiques. Et j'ajoute autre chose. C'est que on a en part aussi toute une évolution sur les accidents du travail et les morts au travail. À partir, je dirais, des années 1860, puisque dans les chansons et poèmes, en tout cas, on repère bien que dans les années 1860, on commence à ne pas trouver normal que des gens meurent à cause de leur travail. Avant, ça n'est pas évoqué, mais à ce moment-là, oui, on trouve des textes, sans d'ailleurs pouvoir très bien dire si les auteurs sont à droite ou à gauche, pas toujours, hein, ça dépend. Bon, on a la guerre de 1870, il y a toute une évolution qui va conduire au droit social qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire où l'État est un régulateur des relations sociales avec la loi sur les accidents du travail 1898, la loi sur les délégués mineurs 1890, la loi sur les caisses de secours des mineurs, donc c'est la première assurance sociale obligatoire en France, hein, la toute première, 1894, et puis on aura ensuite les retraites ouvrières, les choses comme ça. Donc, à ce moment-là, on est aussi en plein dans la série des grandes catastrophes minières. Et il y a des débats journalistiques en particulier où il se dit beaucoup de choses. Et ça concerne le sens du travail. C'est-à-dire, soit le mineur accepte volontairement et consciemment les risques qui vont avec son travail, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de l'indemniser particulièrement si ces risques se réalisent. Soit c'est pas normal de mourir à cause de son travail, et il faut aider les mineurs et leurs familles. Voilà. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un débat législatif radicalise ces oppositions. Et là aussi, c'est un arrière-plan de cette époque-là.
Et sans doute peux-tu élargir tout ce que tu viens de nous dire au monde ouvrier en général, un monde ouvrier qui est issu du monde rural. Or, tout ce que tu nous disais sur l'homme victime de sa destinée qui souffre, on va dire, et j'ajoute ce que tu n'as pas dit, pour expier son péché, on l'a hérité. Cette population l'a hérité et se retrouve en unité avec un monde beaucoup plus vaste. C'est le monde des petits, c'est le monde de ceux qui n'ont pas le pouvoir et qui produisent.
Alors, de toute façon, on est dans des évolutions de long terme où il y a des débats qui, au départ, sont dans des cercles assez étroits, la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, et puis qui progressivement gagne toute la société tout en étant transformé, modifié, repris. Enfin bon, il y a tout un tas d'étapes. Tout à fait. C'est-à-dire que, effectivement, le monde industriel à l'époque, mais comme aujourd'hui, il change très, très, très vite. D'une décennie à l'autre, ça bouge énormément. Les gens voient bien à Saint-Étienne ou dans la région que tel endroit où c'était la campagne, maintenant il y a des usines, il y a des maisons d'habitation, des choses comme ça. Ça, ils s'en rendent très bien compte. Et donc, voilà. Donc, l'idée que les choses vont rester tout le temps les mêmes, elle perd du terrain. Ça, oui, évidemment. Mais bon, après, c'est tout ça est assez complexe.
Alors, ce poème que tu nous as fait découvrir, poème de Jean Tenant, a reçu le deuxième prix ex aequo du caveau stéphanois, tout simplement parce que le premier prix n'a pas été attribué. Alors quand même, la question qui me semble importante, c'est est-ce que les membres du caveau stéphanois incarnent les mêmes options politiques et religieuses, des options voisines de celles de Jean Tenant ?
Alors, pas tous, d'une part. Non, il y en a. Alors, oui et non. Je vais te faire une réponse de Normand. C'est-à-dire que, d'une part, Jean Tenant n'est pas isolé. Il a des amis qui emploient d'ailleurs à peu près les mêmes thématiques au caveau stéphanois. Il a eu une sorte de précurseur, Jean-Marie Lantillon, dont on parlera, qui est encore plus radical que lui dans les options idéologique et politique, mais en même temps, à l'époque, la grosse majorité des membres du caveau stéphanois sont des conservateurs, socialement conservateurs. Le caveau stéphanois de 1903 est très différent de celui de sa fondation en 1883. Par contre, il y en a, je dirais, peut-être 4, 5 qui sont vraiment sur les mêmes thématiques que Tenant et qu'on peut vraiment relier au courant nationaliste et à l'extrême droite française en formation à ce moment-là. Voilà. Mais il y a une continuité, c'est-à-dire que, bon, par exemple, on a un exemple, c'est celui de Théodore Botrel, le chansonnier breton, le breton de Montmartre, qui s'est rendu très célèbre en chantant dans les cabarets montmartrois des chansons en costume breton avec le chapeau rond et tout. Bon, c'était au départ un garçon boucher qui avait été élevé dans des milieux et des institutions très conservatrices. Il a écrit son autobiographie, on trouve ça sur Internet, donc on a tous les renseignements. Bon, Botrel est reçu par le caveau stéphanois un peu après 1903, et vraiment, il est reçu comme le héros, etc. Voilà, on voit bien que Botrel était en particulier très royaliste. Il était dans le courant légitimiste. C'est à relier aussi à toute l'histoire des extrêmes droites françaises à ce moment-là. Il y a une grosse radicalisation après la guerre de 1870, une exaltation de la thématique patriotique, et c'est aussi des courants qui se définissent à partir de ce moment-là comme anti-parlementaires, ce qui n'était pas forcément le cas avant.
Alors, peut-être est-il intéressant de découvrir un nouvel extrait sonore, toujours de Jean Tenant, qui est intitulé son poème sur les victimes de l'incendie du Puy-Combes et qui est toujours interprété par Roland Roche.
Frères, pardonnez-nous, car nos âmes sont folles, car il faut de ces coups pour que nos cœurs distraits, oublieux et frivoles, se souviennent de vous. Nous savons la besogne ingrate que vous faites. Sous nos pieds, le front bas, loin du jour merveilleux qui brille sur nos têtes. Mais nous n'y songeons pas. Nous savons applaudir les vainqueurs de l'espace, des vastes océans. Mais pour nous rappeler que notre sol sans grâce recouvre des géants, il faut qu'un ennemi sournois vous extermine, sans combat en bourreau, et vous fasse passer de l'ombre de la mine à la nuit du tombeau. Or il ne suffit pas qu'aujourd'hui, sous l'étreinte d'un malheur surhumain, nous nous frappions le cœur et mêlions notre plainte aux sanglots de l'airain. Il faut que vos enfants, vos épouses, vos mères, courbés sur vos cercueils, sachent que dans ces jours de commune misère, leur deuil est notre deuil, qu'ils ne seront pas seuls après vos funérailles à porter leur douleur. Que la fraternité n'est pas sur nos murailles qu'un mot vide et menteur. Que la fraternité n'est pas sur nos murailles un mot vide et menteur.
Je rappelle que nous sommes en compagnie de Jean-Paul Gachignard pour parler des images d'extrême droite des mineurs de la Loire. Voilà, alors nous venons d'entendre ce poème interprété en chanson qui est intitulé « Sur les victimes de l'incendie du Puy-Combes ». Mais y a-t-il... Jean-Paul ?
Dans les papiers que je t'ai donnés, c'est marqué sur les victimes, mais le titre exact est celui dans sa publication en 1928, c'est « Aux mineurs de Roche-la-Molière, morts au champ d'honneur ».
Ah, c'est tout différent, ça. Oui. Et oui, alors il y a encore moins d'incarnation. Parce que, on l'a tous remarqué en entendant, on ne sait pas la date. Donc, c'est le 30 juin 1928... à Roche-la-Molière, et c'est une catastrophe au vrai sens du terme, puisqu'il y a eu 48 personnes qui sont décédées. Mais on le voit dans ce texte, rien n'est véritablement relié ni au lieu ni à l'instant. Nous sommes pourtant un jour de marché, à un moment de la vogue à Roche-la-Molière, et ce sont des éléments qui ne sont pas des éléments anodins. Ce poème de douleur aurait pu être écrit dans le cas de n'importe quelle autre catastrophe, probablement. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Paul ?
Oui, probablement, oui. C'est le cas de beaucoup des chansons et poèmes sur les catastrophes minières. Il y en a peu qui soient réellement datés par rapport à une catastrophe précise. Il y en a un certain nombre où il y a des noms, Verpilleux, Châtelut, etc. Donc là, c'est relié à des catastrophes précises. Mais en dehors de ces éléments-là, il y en a très peu dont on puisse dire « Ah ben, c'est celle-là et pas une autre. »
Oui, hein, ça n'a rien d'un documentaire.
C'est
une interprétation de la douleur.
Oui, et c'est une interprétation de la figure du mineur. Ce qui est très frappant au début du XXe siècle, c'est qu'on a aussi une représentation chez certains auteurs, qui ne sont pas exactement ceux dont on parle, c'est encore un peu autre chose, mais une représentation de plus en plus mythifiée, où le mineur devient une sorte d'image d'un maudit. C'est évidemment une représentation complètement fantasmée, je veux dire. Et c'est même assez étrange de se dire, il y avait plusieurs dizaines de milliers de mineurs dans le bassin de la Loire à l'époque, et il y avait des gens qui faisaient des poèmes en se permettant de dire que le mineur est une sorte de maudit. Qu'en pensaient les vrais mineurs? On peut se poser la question. Ce texte-là de Jean Tenon est beaucoup moins marqué que son poème de 1903 en termes idéologiques. Mais bon, finalement, si on essaye de le résumer, les mineurs sont des géants, il les admire beaucoup. On a oublié de penser à eux, il faudrait penser à eux tout le temps et pas seulement quand il y a des catastrophes. J'ai résumé le message un peu à la hache, mais Donc là, c'est beaucoup moins lié à ces idées. Par contre, il n'appelle pas ni à améliorer la sécurité, il ne dénonce pas les compagnies, il ne dit pas... Il y a tout un tas de choses où on compare ce texte-là avec ceux de Jean-François Gonon, par exemple, on n'est pas sur la même planète, hein.
Oui, c'est un héros du travail, constatons-le, c'est un homme stoïque, le mineur, qui risque sa vie pour sa patrie, et il nous le dit comme le marin ou le soldat. Alors là, on a une trilogie qui est très forte dans les représentations populaires, parce qu'il y a le travailleur, il y a le marin affronté à la mer, comme le mineur est affronté au péril, et il y a le soldat.
Alors, les images du mineur marin ou du mineur soldat, là, ces deux comparaisons, on les trouve dès le début du 19e siècle. Et quelles que soient les options politiques ou idéologiques des auteurs. Vraiment, ça n'a rien de spécifique. Dire que le mineur est stoïque, moi je pense que c'était des humains comme tout le monde, qu'ils étaient parfois stoïques et parfois pas, et qu'ils étaient tous différents entre eux. Donc, le mineur est stoïque, tous les mineurs sont stoïques, je ne sais pas, j'ai un peu de mal à croire ce type d'assertion.
Mais dans le contexte du début du XXe siècle, on peut y voir dans ce soldat des éléments nationalistes.
Ah oui, tout à fait. Alors pour le coup, oui, c'est-à-dire que les courants, surtout les courants nationalisme, donnent une représentation, comme tu dis, du mineur stoïque, prêt à supporter n'importe quoi pour la patrie, pour... même pas pour ses enfants, pour la patrie, pour la généralité qui se sacrifie volontairement. C'est une représentation, comment dire, on n'est pas obligé de les croire, quoi.
Thank you.
Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Gachignard à propos de son travail, de sa réflexion sur les images d'extrême droite des mineurs de la Loire. Alors, pour continuer notre parcours à travers les écrivains qui ont pu parler du mineur et qui ont incarné certaines options, tout à l'heure, tu nous as parlé de Jean-Marie Lantillon. Est-ce que Jean Tenant et Jean-Marie Lantillon, ou bien est-ce qu'il y avait un cénacle de poètes qui se rencontraient ?
Non, pas exactement. C'est-à-dire que Lantillon était un Lyonnais qui était d'une famille de la Loire du côté de Chavanay, d'une famille de vignerons et d'agriculteurs apparemment. Et lui, il a fait des études et ensuite il a été professeur dans une institution catholique à Lyon. Et il a écrit lui aussi des poèmes et il a écrit aussi des pamphlets littéraires. Mais Tenant, qui était donc un militant d'Action française, fait figure de modéré à côté de Lantillon. Ah, c'est absolument fantastique. Parce que Lantillon, alors, comme Maurras, est absolument opposé aux nouveautés en poésie, donc il défend furieusement l'alexandrin, il écrit des pamphlets là-dessus. Ça fait partie de la décadence. En gros, tout est en train de s'effondrer. Bon, comment dire, quand il publie en... Alors par contre, le moniteur du caveau stéphanois a publié quelques textes de Lantillon, dont un poème sur le mineur, lui aussi, en 1892. Et où... Alors,
tu as isolé voilà. Un quatrain.
Voilà, mais il faut que je le retrouve.
Dont tu vas nous faire la lecture.
Et surtout. Alors, je vais lire, oui, quatre vers. On va voir que ça se rapproche de ce qu'on disait sur Tenant, quand même. Donc, c'est le mineur. Mais s'il vaguait, malgré cela, reprendre son pic et sa pelle, il pense au devoir qui l'appelle, qu'importe si la mort est là. Donc, on trouve exactement la même représentation. Du mineur stoïque qui affronte volontairement la mort et le reste du texte montre bien que c'est dans une optique patriotique. Alors, en cherchant à comprendre ce poème-là, j'ai eu l'idée à un moment de le comparer à la chanson, plus exactement, de Paul Déroulède sur le clairon. Déroulède a été très célèbre. Il faut savoir que Déroulède, c'était aussi un militant des extrêmes droites nationalistes de la fin du 19e. Il a même tenté de faire un coup d'État en 1899. Bon, ça a foiré lamentablement et à toute vitesse. Déroulède s'est rendu célèbre en faisant une chanson hyper patriotique, qui est Le Clairon, on est après la guerre de 1870, donc massivement perdu contre les Allemands, et il exalte un vieux clairon qui souffle du clairon jusqu'à ce qu'il meure sur le champ de bataille. Voilà, donc complètement stoïque, prêt à se sacrifier, etc. Et Lantillon, quand il écrit son poème sur le mineur, il démarque, mais très volontairement et très consciemment, Déroulède. C'est-à-dire que son héros, ce n'est plus le clairon qui meurt sur le champ de bataille, c'est le mineur qui meurt dans la mine. Voilà. Et il l'a fait, mais tout à fait exprès, il n'y a pas de hasard. Et j'ajoute que comme la chanson de Déroulède était très connue à l'époque, tout le monde faisait le parallèle. Voilà. Comment dire ? Alors, Lantillon est un beaucoup moins bon poète que Jean Tenant. Hein. C'est pas du tout la même catégorie en termes de qualité littéraire. C'est quand même beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile. Lantillon et Tenant n'étaient pas d'accord sur une chose. C'est que Lantillon a fait un pamphlet contre Anna de Noailles, donc une poétesse qui avait fait quelques timides innovations littéraires, alors que Jean Tenant, au contraire, en était fan.
Belle comparaison avec Paul Déroulède. Je relève là, dans le poème de Lantillon, ces deux versets-là. Le pic en leur vaillante main, comme un glaive, j'amène rouille. Ah, là.
Oui, toujours la comparaison avec le soldat.
Et puis, le soldat noirci de poudre.
Oui, bien sûr. Ah oui, mais c'est. Alors, il y a des renvois au texte de Déroulède, mais évidemment, il faudrait. J'ai pas repris le texte de Déroulède, là, cette fois-ci. Donc.
Et puis, un petit éclair de poésie avec cette caractéristique du mineur, le mineur aux cheveux blancs, lorsqu'il se montre. Cheveux blancs, ben oui, c'est quelqu'un qui a déjà vécu, qui a déjà beaucoup travaillé, et sa mort ne peut être que plus triste encore.
Alors là, on est vraiment dans le parallèle avec Déroulède, puisque Déroulède parle d'un clairon qui lui aussi a les cheveux blancs.
J'aimerais, Jean-Paul, que tu examines si cette manière de présenter le mineur est exclusivement un attribut des images d'auteurs de droite. Il peut être aussi un attribut des auteurs qui ont des partis pris de gauche. Alors à ce propos, tu as étudié le livre sur Michel Rondet de Claude Liogier, publié en 1949, avec une préface de Joseph Sangdols. Et on constate bien que l'interprétation de cet ouvrage, c'est la volonté, la nécessité pour le monde ouvrier de Londen d'avoir encore des héros. Et ces héros, on ne peut pas les trouver dans ceux qui ont été les acteurs de la grève de 1948, puisqu'ils sont en prison, puisqu'ils ont perdu leur emploi, mais dans une figure archétypale qu'est Michel Rondet.
Là, il va falloir une autre émission. Bon, il y a beaucoup à dire du roman d'André Philippe, Claude Liogier, pseudonyme André Philippe, sur Michel Rondet. Le plus étonnant étant quand même que c'est un éloge communiste d'un héros réformiste. Ce qu'on ne voit pas forcément si on ne sait pas exactement ce qu'a fait Rondet et comment il s'est inscrit dans les débats de son époque. En tout cas, oui, effectivement, André Philippe fait de Rondet un héros, mais ça, il n'est pas du tout le seul. Pour le coup, des textes qui font des mineurs des héros, on en trouve, quelles que soient les options politiques, on trouve, mais ça ne veut pas dire que tous les textes font des mineurs des héros. Il y a aussi des textes qui font du mineur une sorte d'anti-héros. Il y a par exemple dans Le Pauvre Mineur un texte assez mal écrit de Jules Vacouta qui est assez étonnant de ce point de vue-là. Mais oui, de toute façon, en plus, un héros communiste, ça nous renvoie au réalisme socialiste. C'est encore tout un tas de discussions, mais là, on en a beaucoup à dire, là.
Alors, de 1949, passons à aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des représentations traditionnelles qui sont toujours réactivées à l'heure actuelle? Et il me semble entendre encore les débordements lyriques qui accompagnent, avec de la musique, la nuit, qui accompagnent le feu d'artifice à Courriot.
Là, d'une part, on a aujourd'hui beaucoup moins de chansons ou poèmes sur les mineurs. Donc, moi, je vais te répondre en essayant d'être le plus méthodique et le plus scientifique possible. On a beaucoup moins de corpus, on a beaucoup moins de textes. Donc, c'est beaucoup plus difficile de les comparer et de les relier. Ça, c'est la première chose. Alors, deuxièmement, oui, il y a des représentations conservatrices des mineurs, voire des représentations d'extrême droite. Oui, bien sûr. Un trait commun de toutes les représentations d'extrême droite, c'est le « c'était mieux avant ». Alors, fin 19e, début 20e, « c'était mieux avant », c'est la campagne qui a toutes les qualités et la ville industrielle qui a tous les défauts du monde. Il y a Tennant qui, dans un de ses poèmes, parle des galeries qui rendent le cœur méchant, qui pousse à la révolte. Voilà. Aujourd'hui, le « c'était mieux avant », ça peut être « c'était mieux avant quand il y avait le plein emploi ». c'était mieux avant, quand tout le monde avait du travail, même sans être obligé d'avoir des tas de diplômes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un trait commun de toutes les théories d'extrême droite. C'est, il y a toujours un passé mythifié. Au-delà, moi, ce qui me frappe beaucoup, par exemple, c'est qu'on parle, beaucoup plus des gens qui ont été mineurs toute leur vie que des gens qui n'ont fait que passer dans le monde de la mine, qui ont été mineurs 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Or, ceux qui n'ont fait qu'y passer ont été beaucoup plus nombreux que les autres. C'est incomparable. Et d'ailleurs, après, avec chaque catastrophe, on a des vagues de départ, hein, avec presque chaque accident. Donc voilà. Ou encore, il y a la façon de parler des mineurs d'origine française ou d'origine polonaise, et puis d'oublier les Algériens, Marocains, Tunisiens, sans compter encore des tas d'autres pays. Voilà, là aussi, bon, voilà. Mais simplement, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on peut très bien dire c'était mieux avant, les grèves étaient mieux avant, et celles d'aujourd'hui, c'est absolument rien du tout. On peut dire ça aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des représentations conservatrices, et à mon avis très conservatrices, qui en même temps disent qu'ils étaient très bien parce qu'ils faisaient la grève courageusement. Bon, mais là, c'est un peu des interprétations au doigt mouillé. Je veux dire, ce n'est pas un travail méthodique. Il y a probablement quelques sujets de thèse intéressants dans l'affaire.
Alors, ton projet aujourd'hui, c'était de nous parler de la figure du mineur à travers les poèmes et les chansons. Et il y a une autre source littéraire, entre guillemets, qui nous parle de la vie du mineur, ce sont les discours de la Sainte Barbe. Alors, ce thème-là n'a jamais fait l'objet d'une étude. Alors, je prêche pour qu'on puisse peut-être s'y intéresser.
Ah oui, ça certainement. C'est
un moment important, le moment de la fête de la Sainte Barbe, où autour de l'ingénieur principal et autour des autres ingénieurs se retrouvent toutes les catégories de mineurs. Et l'idée, c'est de se dire, eh bien, que l'on soit ingénieur ou pas, nous sommes tous des mineurs. Alors, dans ces discours, bien sûr qu'il y avait la préoccupation de la fermeture imminente du bassin, mais il y avait aussi toujours un moment où l'ingénieur principal rend hommage à ces hommes. Il rend hommage à ces hommes parce que ils ont traversé les dangers, les accidents, et surtout parce qu'ils ont participé à la production. Est-ce que ça n'est pas une autre manière de voir la figure du mineur que ces discours-là ?
Ça s'apparente, oui, beaucoup à ce qu'on trouve dans les chansons et poèmes, sous des formes différentes. Après, il y a tout un travail à faire sur les Saintes-Barbes dans la Loire. À quel moment ? Parce que la Sainte-Barbe, elle est réactivée aux alentours de 1880, après être un peu tombée en désuétude. Et qu'est-ce qu'elle était au début du 19e ou dans la première moitié du 19e ? Là, le travail reste à faire. Hein. Il faudrait éplucher la presse stéphanoise. Et puis, ensuite, il y a des Saintes-Barbes, il y a eu aussi des Saintes-Barbes contestataires. Il y a celle du curé de Saint-Ennemont en 1977 qui mélange toutes les chaises dans l'église à Saint-Ennemont. C'est-à-dire que les ingénieurs ne sont plus au premier rang, ils sont mélangés partout. Ça passe assez mal. Et il y a eu aussi une forme de Sainte-Barbe contestataire en 1890. Une manifestation de syndicats de mineurs qui est partie à peu près de la place Jean Jaurès pour monter au Crêt de Roc pour rappeler les morts des catastrophes minières. Donc là, ils avaient fait une Sainte-Barbe à leur manière et complètement en dehors des hiérarchies des professionnels. Donc voilà. Et moi, je vais rappeler que Michel Rondet, qui, vers 40 ou 50 ans, était devenu libre penseur, était opposé à la Sainte-Barbe, il était contre. Voilà, donc, bon, il y a une histoire à faire, on ne peut pas dire que c'est homogène, il s'est passé plein de choses au milieu de tout ça.
Alors, bien au-delà du sujet que tu as préparé, il y a aussi les représentations artistiques du mineur. Et nous avons au musée Couriot, dans l'ancien bâtiment du tirage des plans, quelques représentations de sculptures du mineur. L'une, le représentant immense, celui qui a la force, et d'autres, représentant des hommes qui sont courbés et qui sont accablés par la fatigue.
Tu me renvoies un peu au titre de mon bouquin, Pauvre mineur, mineur joyeux. Si on avait voulu faire un titre plus long, on aurait ajouté mineur héros. Voilà, donc le très grand ou le pauvre ou le héros, c'était... oui, ça fait... On trouve différentes interprétations, et c'est normal, ça n'est que des interprétations face à une réalité qui est beaucoup plus complexe que ça.
Écoute, nous avons passé un moment très agréable, Jean-Paul. Tu nous as proposé une réflexion distanciée, lucide, par rapport à la figure du mineur, et en prenant en compte les facteurs qui les ont influencés, politiques, et puis propre à une culture.
Oui, et moi ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on a toujours l'impression que quand on parle du monde ouvrier, c'est des représentations progressistes ou c'est des représentations de gauche. Mais il faut y regarder de beaucoup plus près. Hein. Et il faut, je veux dire, les gens de gauche, à mon avis, sont souvent assez naïfs sur ce genre de sujet. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas qu'il puisse y avoir des représentations de droite ou d'extrême droite du monde ouvrier. Et il y en a.
Merci Jean-Paul.
Eh bien, peut-être pour terminer, Maurice et Jean-Paul, petit agenda très rapide pour cette dernière. Alors, j'ai sélectionné 2-3 petites infos. Vous avez évoqué la mine. Alors, forcément, on peut parler du Puits Couriot, musée de la mine de Saint-Étienne, qui vient de terminer une de ses expositions. Mais une temporaire est toujours en place jusqu'à la fin de cette année 2023. C'est exposition temporaire Crassier versus Fujiyama, esthétique des montagnes symboliques, photographie et manga. On rappelle aussi que quelques travaux du côté du musée de la mine, hein, puisque ce sont et c'est notamment la galerie de mine reconstituée qui sera en restauration là, ou qui est actuellement en restauration d'ailleurs, hein, pour quelques jours. Donc indisponibilité de certains espaces me semble-t-il, ou en tout cas parcours de visite adapté. Mais vous avez toutes les infos sur le site dédié du musée de la mine de Saint-Étienne. Et puis alors, on fait complètement écho à ce que vous avez évoqué durant cette émission, ou en tout cas à certaines de ces figures. Je pense notamment à Michel Rondet que vous évoquiez, puisqu'on va parler de la Ricamarie. A priori, Michel Rondet a tout de même pris la Ricamarie et a proclamé la République, mais c'était en 1870, c'était la Commune, condamnée et puis libéré. Mais la Ricamarie qui va marquer ce mois de juin, un peu comme habitude, hein, sur une autre situation et catastrophe minière, entre guillemets, c'est la Fusillade du Brûlé. Le 16 juin 1869, hein, une fusillade au lieu-dit Le Brûlé à la Ricamarie, près de Saint-Étienne. C'était un groupe de mineurs grévistes, hein, qui avait quelques revendications salariales. Alors, me semble-t-il.
On est dans la grande grève de 1869 et il y a un groupe de... Et les groupes de mineurs, mais comme ça se fait toujours dans les grèves à ce moment-là, essayent de faire débrayer les différents puits. Et au puits de Londaine, qui est un des gros puits de la vallée, tout en bas de la Ricamarie, aux mines de Mont-Rambert, il y a un groupe de mineurs qui est pris, qui est plus ou moins en train de donner l'assaut au puits. Et à ce moment-là, il y a la relève des militaires qui avance. C'est donc une quarantaine qui sont faits prisonniers. Et après, le détachement remonte sur Saint-Étienne. Mais évidemment, toute la population du Chambon, de la Ricamarie, est ameutée. Les blocs dans la tranchée de l'ancien chemin de fer minier, là, il faut voir, on a des photos qui montrent bien que le détachement des militaires est pris comme dans une nasse. Et au bout d'un moment, les militaires perdent leur sang-froid et tirent dans la foule, 14 morts.
Voilà, il tire sur la population de la Ricamarie et 14 civils tués en effet. D'ailleurs, on aurait pu tout à fait écouter, j'ai vu sur la compilation que tu as apportée, Jean-Paul, qu'il y a cette chanson La Ricamarie, en souvenir de la fusillade, précisément du chansonnier stéphanois Rémy Doutre, hein, qu'on aurait pu aussi écouter et qui revient sur cette fusillade du Brûlé. Rémy Doutre, lui, dans cette période fin 19e.
1869, c'est une chanson qui est écrite assez exactement sur l'événement. Par contre, Doutre n'avait pas du tout les mêmes opinions que Jean Tenant.
Oui, oui. En tout cas, un chansonnier, je disais plutôt du fin 19e, mais bien sûr sur 1869 et le 16 juin, notamment pour cette fusillade du Brûlé. Alors juste dire que cet événement reste dans les mémoires et est toujours célébré, commémoré chaque année du côté de la Ricamarie, avec un événement qui s'intitule Résonance. C'est un événement, une commémoration de la fusillade du Brûlé qui aura donc lieu le 16 juin prochain à la Ricamarie, avec un ensemble d'événements, avec les Pal Théâtre, l'autre lieu... la fusillade du Brûlé du 16 juin 69 commémorée donc avec un ensemble d'événements, je disais une commémoration, une sorte d'officiel devant le monument des étoiles, route de Quintin à partir de 18h le 16 juin, un apéritif convivial amical laïque à 19h et puis un concert, le concert des Mécanos. Ce sont 10 chanteurs et percussionnistes au chant populaire en français et en occitan qui se produiront le soir à partir de 20h. Vous avez là aussi pour cette commémoration et cet événement Résonance autour de la fusillade du Brûlé toutes les infos sur le site officiel de la ville de la Ricamarie. Et puis, annoncé encore, puisqu'on a évoqué le Picouriau et puisqu'on évoque en ce mois de juin aussi le 21 juin la fête de la musique, on réannonce quand même qu'il y a les Sons de la Mine et que toujours est célébrée la fête de la musique au Picouriau là-bas le 21 juin prochain. On revient à l'histoire, on a évoqué l'exposition du musée de la mine, mais il y a aussi la clôture de l'exposition En guerre d'Algérie, récit partagé, dont on a beaucoup parlé dans ce programme Grémos, qui va se boucler ce samedi 17 juin. Donc il y a une ouverture exceptionnelle de 15h à minuit, avec en continu visite libre de l'exposition, visite guidée, et puis une lecture théâtrale et sonore, Je vous écris d'Algérie, qui sera proposée en deux sessions à 17h et à 20h. En partenariat avec le Conservatoire Massenet. Donc on rappelle hein, cette exposition autour de l'Algérie et la guerre d'Algérie qui a donné lieu hein, à cette expo en collaboration avec les archives départementales et les archives municipales. Donc voilà, journée de clôture ce 17 juin aux archives municipales Cour Fauriel, bien sûr, à Saint-Étienne. Et puis on renvoie toujours bien sûr sur votre site, le Grémos, comme c'est la dernière de cette saison, l'occasion d'aller y retrouver d'autres sources, ressources, infos, actualités, émissions en ligne. C'est le site grémos.fr, on le rappelle. C'est la toute fin de ce programme. On se retrouve saison prochaine, rentrée prochaine. D'ici là, passez un bel été, on va le dire comme ça. Au revoir Maurice, au revoir Jean-Paul.
Au revoir Lionel.
Portez-vous bien.
À très bientôt.